France Culture.
Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois de la laïcité. Alors pourquoi je dis encore une fois ? Parce que à l'occasion des 120 ans de la célébration de la loi dite de séparation, la loi du 9 décembre 1905, j'ai grand plaisir à accueillir Maître Ardavan Amir Aslani pour parler de la laïcité du 21e siècle. Convaincre plutôt qu'interdire. Voilà un vaste programme à la fois pédagogique et qui se veut dans le débat d'idées et non pas uniquement dans l'interdiction, surtout que la laïcité est un principe de liberté avant tout. Ardavan Amir Aslani est un avocat connu et reconnu, inscrit au barreau de Paris, certes un avocat d'affaires, ténor du barreau parisien, et surtout un essayiste à la plume acérée et très belle. J'ai la faiblesse de le dire et de le reconnaître. Et Ardavan Amir Aslani, merci d'abord de nous donner de votre temps. Vous vous intéressez aux problématiques des sociétés contemporaines et la société française en Europe et puis dans le monde, et traversé par de forts courants. Parfois, certains sont antagonistes. Et comme nous ne voulons pas qu'il y ait fragmentation sur fragmentation, votre contribution pour cette laïcité du 21e siècle permet l'apaisement et surtout la cohésion nationale.
Vous l'avez dit, la question de la laïcité est d'actualité à l'occasion de cet anniversaire qui se profile devant nous, et la question de l'islam en France et dans le monde encore davantage d'actualité du fait d'une très grande erreur d'appréciation quasiment de la population mondiale sur ce qu'est l'islam ou ce que sont les islams, puisqu'il n'y a pas une unique forme de l'islam, comme vous le savez mieux que moi.
Oui, alors vous dites, et à juste raison, que si cette tradition religieuse et la civilisation sous-tendue par cette tradition est mal appréhendée, notamment en France, c'est que on l'essentialise, on considère que c'est un monolithe et qu'il n'y a pas une pluralité d'islam. C'est comme si le monde dit musulman n'était pas perclus de pluralité, et parfois il y a même des antagonismes véhéments au sein de ce monde dit musulman.
Vous l'avez parfaitement résumé. Déjà, si vous voulez, en parlant du monde chrétien, il n'y a pas de monolithe non plus. Que l'on parle des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des églises régionales comme l'arménienne, géorgienne et Dieu sait combien de sectes, de mouvements autres, il n'y a pas un seul christianisme. Au même titre qu'il n'y a pas un seul christianisme, il n'y a pas un seul islam. Vous le savez, dans le sunnisme déjà, il y a au moins 5 écoles musulmanes que l'on peut citer qui divergent dans des points essentiels les uns des autres, sans vouloir même parler d'autres mouvements que l'on peut qualifier sectaires, même si ça concerne au moins pour l'un d'entre eux de centaines de millions de personnes, comme le chiisme. Donc il n'y a pas qu'un seul islam. Mais je dirais, que l'islam soit unique ou que l'islam soit pluriel, in fine, l'appréhension de la société française de cette religion est une appréhension négative. Et donc je m'interroge sur le pourquoi de la chose. Comment peut-on changer la chose? Et pourquoi il faut changer cette appréciation qui est fondamentalement erronée?
Selon vous, si on fait appel au temps long pour aplanir les difficultés du temps présent, cette incompréhension ou cette crainte, parfois doublée d'une détestation, ne sont-elles pas un héritage de haines ancestrales, hormis chez les érudits ou les connaisseurs, où il y a des choses qui ont été aggravées d'abord par l'ignorance, voire par la méconnaissance, et surtout qu'à un moment donné, il y a eu des attentats meurtriers, il y a eu de l'autre côté l'héritage du colonialisme et donc de réelles incompréhensions.
Moi, je pense qu'il y a de réelles incompréhensions. Je ne pense pas qu'il faille remonter à Charles Martel pour justifier l'origine de ces oppositions. Il y a des problèmes.
Qui n'aurait été pour certains qu'une escarmouche de nuit entre le maire du palais et Abderrahman.
C'est ce qu'on dit également. Mais la réalité, c'est que ces dernières décennies, il y a réellement une volonté de stigmatisation de l'islam. Et cette volonté-là, à mon sens, est politiquement motivée par une volonté politicienne de monter les uns contre les autres, créer une véritable haine à travers des interprétations erronées, des stigmates et des accusations infondées. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dès que vous parlez à quelqu'un qui se croit autorisé à parler de l'islam, tout de suite l'islam est associé à des thèmes qui sont particulièrement négatifs, comme par exemple l'insécurité, comme par exemple l'immigration, comme par exemple le chaos, l'instabilité. Et moi je m'insurge contre ça, parce que la réalité est tout autre. L'islam que je croise pour ma part est l'islam personnifié par tous ceux qui habitent en France, sont nés en France, qui ont fait de grandes études, sont des éléments qui contribuent de manière particulièrement positive à l'essor de ce pays et qui ont du mal à s'identifier avec cette vision de l'islam projetée par des extrémistes, qui ont un intérêt personnel de promotion personnel dans la vie politique française ou un intérêt motivé par des considérations géopolitiques, souvent étrangères.
Oui, et dans le sens et dans le sillage de ce que vous dites, Maître Ardavan Amir Aslani, il y a, hélas, on peut le regretter ou simplement le constater, un triomphe idéologique de l'extrême droite, à telle enseigne qu'un candidat à la magistrature suprême ne cesse de dire que je suis là pour défendre, curieusement, sous la voûte commune de la laïcité, le judéo-christianisme contre l'islam, parce que le choix est entre la France et l'islam. C'est curieux que de tels propos soient proférés sans que ça n'émeuve ni les uns ni les autres.
De tels propos idéologiquement marqués, historiquement erronés, philosophiquement infondés, soient prononcés et que, comme vous l'avez dit, que personne ne s'insurge. Si vous voulez, déjà cette notion de judéo-chrétien, c'est une notion qui, à mon sens, n'a aucun sens tout court. Parce que déjà, elle n'existait pas il y a quelques décennies. C'est une invention, si j'ose dire, des temps modernes, surtout des années 80. Une volonté de créer le mythe d'une communauté d'intérêts entre les chrétiens et les juifs face à un danger qui les menace tous les deux, qui serait l'islam. Alors que pour ceux qui connaissent un peu le christianisme, un peu le judaïsme, savent que le judaïsme n'a pas le début de l'ombre d'un respect pour le christianisme. Suffit de voir comment les rabbins juifs qualifient la personne du Christ dans les Talmuds. Ou ensuite, si vous voulez, les chrétiens se considèrent comme étant une rupture radicale avec ce que fut le judaïsme, qui a donné lieu d'ailleurs à des siècles de pogroms du fait de l'interprétation que les chrétiens en ont fait. L'islam n'a rien à voir avec cette affaire-là. Et je dirais même que si on doit se positionner dans la logique judo-chrétien, l'islam, c'est la troisième partie qui doit également s'imposer, puisque le prophète de l'islam se considère comme étant le sceau de prophète qui vient à la suite de la personne du Christ. Donc pourquoi écarter la troisième partie des livres bibliques et abrahamiques ? Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est ce que vous avez souligné avec la délicatesse qui vous est coutumière, c'est qu'en fait, il y a une volonté de stigmatisation de tout un pan de la société. Vous avez parlé des attentats. La personne que vous avez cité sans la nommer, j'ai entendu dire moi-même que Gaza, c'est le 7 octobre, c'est le Bataclan. Alors Dieu sait qu'il n'y a aucun point commun entre ces deux affaires. Dans un cas, c'est un attentat effectivement terroriste. Dans l'autre, si vous voulez, c'est également un attentat terroriste, mais qui a été suivi par un véritable carnage, pour ne pas dire un génocide. Mais par réaction à une oppression, par réaction à une forme incontestable de colonialisme. Donc on ne peut pas tout mettre dans le même panier, dans le même sac.
Pour revenir au trait d'union entre judéos et chrétiens, et vous avez dit que c'est une affaire qui remonte à quelques décennies, à juste raison. Donc, les observateurs et ceux qui savent mieux que moi disent qu'en réalité, c'est suite au congrès de Sélisberg en Suisse en 1947 et surtout après la rencontre entre Jules Isaac, l'historien, et le pape Jean XXIII, et qui donneront par la suite la déclaration conciliaire Nostra Aetate, où il y a cette reconnaissance non seulement sur le plan théologique mais aussi sur cette proximité entre judaïsme et christianisme. Donc le trait d'union n'apparaît qu'à cette occasion. Il aurait été chez Freud, peut-être dans sa préhistoire, il aurait été aussi dans le Mayflower, quand il y avait quelques juifs qui sont allés avec des protestants découvrir le Nouveau Monde. En revanche, le trait d'union entre judéo-islamique sur le plan civilisationnel, culturel, est prégnant.
Bien sûr.
J'aime à rappeler que si on regardait les noces juives d'Eugène de la Croix, si on cache la légende, on ne saura pas s'il s'agit de noces juives ou de noces arabo-musulmanes. Et que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle, alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale.
Bien sûr.
C'est pour aller dans votre sens et pour dire que ces incompréhensions sont dues aussi à une méconnaissance grave et de l'histoire et de la fresque ou la tapisserie des siècles, comme disent certains.
Vous avez parfaitement raison. Vous le savez, la méconnaissance est source de peur, source de crainte et source d'incompréhension. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et effectivement, il y a incontestablement dans l'inconscient collectif en France et dans d'autres pays européens une perte de connaissance de l'islam, de ce que fut la relation de l'Europe avec l'islam, et de ce que fut le rôle de l'Europe dans terre d'islam, et de ce que l'islam est devenu aujourd'hui. Si vous voulez, globalement, le monde européen, chaque fois que ce monde-là a été confronté au phénomène politique de l'islam, c'est dans un contexte guerrier. C'était soit l'Empire ottoman, soit la conquête coloniale, soit la stigmatisation de l'autre. Mais in fine, on oublie que l'islam était porteur d'un savoir oublié en Europe. On oublie que l'islam a été innovateur comme facteur de propagation de la pensée positive. On ignore que l'islam a permis justement au monde post-Moyen-Âge de renouer avec le savoir antique. Donc il y a une méconnaissance, et cette méconnaissance aujourd'hui est exacerbée par des idéologies politiques aujourd'hui dans leur intérêt personnel. C'est là où ça devient particulièrement dangereux pour les 8 millions ou plus de musulmans qui habitent ce pays, la France qui est le leur, également.
Et vous avez tout à fait raison d'insister sur la méconnaissance avec cette nuance entre l'ignorance tout court, et quand on est ignorant, ça dynamise pour aller apprendre, alors que la méconnaissance implique un double travers. Le premier, c'est de ne pas aller apprendre puisqu'on connaît.
Bien sûr.
Et quand, par définition, cette connaissance est fausse, méconnaissance, eh bien, on connaît un savoir faux et de surcroît, on le propage du haut de la chair de celui qui sait, sauf qu'on est en train de propager une connaissance totalement biaisée. Il y a un autre point, cher Ardavan Amir Aslani, qui est considéré dans votre ouvrage, qui est celui de la sécularisation qui gagne les jeunes musulmans ou les musulmans d'une manière générale, et que cette sécularisation n'est pas mise en avant et on ne prend en considération que l'orthopraxie chez certains jeunes musulmans.
Bien sûr. Ça m'intrigue, ça m'étonne, si vous voulez. Moi, en tant qu'avocat, j'ai un cabinet et je reçois des CV, des candidatures de la part de tout le monde. Vous ne vous imaginez pas le nombre de candidatures que je reçois venant de Français de religion musulmane qui cherchent à intégrer la profession d'avocat, qui ont fait des études brillantes, qui se sont illustrées de manière radicale parmi les meilleurs élèves de leurs universités et facultés. Je ne reçois pas, si vous voulez, des candidatures venant des femmes portées sur la version agressive de l'islam, de burqa de vêtu, qui n'est même pas un phénomène arabe, qui est un phénomène davantage afghan qu'autre chose. Donc, on a tendance, si vous voulez, il y a un mot, une expression américaine qui dit « cherry picking », à faire une sélection délibérément orientée vers ce qui arrange l'inconscient collectif de ceux qui veulent continuer à voir dans l'islam un élément dangereux pour l'avenir de la société française. Moi, l'islam que je vois, c'est l'islam de toute une jeunesse, tout un pan de la société française, qui n'aspire qu'à une seule chose, à l'indépendance financière, à la liberté sociale de la vie, et également à devenir des membres positifs contribuant à l'essor de la société française. Ça, c'est l'islam que je vois. Qu'il y ait des excités, qu'il y ait quelques personnes qui soient fanatisées dans leurs croyances et qui le montrent par une apparence extérieure à travers leur tenue, sûrement, c'est possible. Mais on ne peut prendre quelques exemples isolés pour juger toute une communauté riche de millions et de millions de personnes.
Bien, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec l'avocat Davan Amir Aslani, nous parlons de la laïcité du 21e siècle. Nous parlons aussi d'islam en France et par moments aussi de par le monde et avec cette idée qu'il faut des trésors de pédagogie, d'explication. On a ce titre-là, convaincre plutôt qu'interdire. Et c'est vrai, Ardavan Amir Aslani, vous qui êtes avocat, je l'ai dit et je le reprends, un des ténors du barreau de Paris. Et donc c'est à l'observateur et à l'analyste que je m'adresse. Cette jeunesse-là, les excités, comme vous les appelez, qui se singularisent par leur accoutrement, qu'ils surinvestissent, leur discours, leur façon d'être. Vous dites que, et j'ai apprécié sincèrement, que ce n'est pas une réislamisation, c'est une réactivation de l'identité confessionnelle.
C'est vrai.
Parce que vous avez raison, si je puis me permettre. Une réislamisation, ça sous-entend qu'ils n'étaient pas du tout musulmans et on se retrouve avec une réislamisation de néophytes et de profanes. Alors que là, c'est plutôt une réactivation identitaire qui trouve refuge dans la religion.
Même ça, si vous voulez, je déplore, si vous voulez, toute forme d'excès. Mais cela dit, même ça, ça peut s'expliquer par le regard que ces personnes-là reçoivent ou ont reçu. Il y a un adage persan qui dit « Comment est-ce que vous avez appris la politesse ?» La réponse de l'érudit, c'est « J'ai regardé les goujats et j'ai fait l'inverse. » Donc j'imagine, si vous voulez, qu'un Français issu de l'immigration, on va utiliser l'expression là, qui se voit interdire l'accès du marché du travail, qui se voit interdire l'accès au logement, qui se voit interdire l'accès à la fonction publique, de par un délit de faciès, de par le nom qu'il porte, de par la minorité qu'il personnifie, peut, avec le temps, développer, si vous voulez, un antagonisme par rapport à la société environnante. Combien de Français issus de l'immigration se voient interdire l'accès à telle ou telle discothèque? Combien sont regardés, si vous voulez, par les services de l'ordre comme étant des menaces potentielles? Si vous voulez, mon lieu de travail, c'est sur les Champs-Élysées. Chaque fois que je traverse les Champs-Élysées, je vois effectivement une voiture arrêtée. Je n'ai jamais vu le conducteur de la voiture être un Français de souche, si je peux me permettre d'utiliser l'expression, blond aux yeux bleus. Systématiquement, ce sont des Français issus de l'immigration, souvent d'origine maghrébine. Donc c'est normal que face à cette stigmatisation systématique de ces personnes, ils développent une sorte de d'agressivité. Mais encore une fois, ça c'est l'extrême minorité. Moi je suis attaché aux armées françaises et ça m'arrive régulièrement d'en rencontrer des militaires. Et je suis allé dernièrement voir des gendarmes. Et j'ai vu, parmi les gendarmes femmes, un certain nombre de gendarmes femmes issues de l'immigration. Mais née en France, française, comme toutes les autres françaises. Et j'aurais posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes au sein de l'armée? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de maghrébines qui sont dans la gendarmerie? On m'a expliqué, parce que nous, comme toutes les autres femmes, on aspire à assumer notre indépendance, notre liberté sexuelle, notre rôle en tant que membre à part entière de la société française, eh bien les armées nous apportent cette solution. Ce qui signifie en fait que pour permettre une sorte d'affranchissement, si besoin d'affranchissement existait pour certaines femmes de certains milieux, d'encourager leur prise de responsabilité, leur indépendance financière, en leur permettant de devenir des femmes à part entière. Eh bien, ça, c'est l'espoir que je formule de mes vœux. Parce que toutes les femmes que je vois, musulmanes de France, elles sont non seulement extrêmement qualifiées professionnellement parlant, elles sont encore plus motivées que les autres parce qu'elles voient que l'accès au marché du travail est difficile. Elles voient que le fait d'obtenir un stage est difficile. Vous le savez, mais peut-être qu'il convient que je mentionne l'exemple de la Grande Famille, une initiative que mon cabinet avait créée. On allait, si vous voulez, dans les IUT, dans la banlieue parisienne. Pas forcément dans les banlieues les plus favorisées. On choisissait des élèves d'IUT en première année. Ces élèves, quand on les interrogeait pour la première fois, que voulez-vous devenir? Et les élèves répondaient, je veux devenir aide-comptable ou secrétaire juridique. Avec un peu d'accompagnement que nous leur avons apporté, un peu d'aide financière, mais surtout un peu d'accompagnement personnel de la part des avocats membres du cabinet, ces personnes-là qui se prédestinaient à ce type de travail sont aujourd'hui devenues avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, des personnalités exceptionnelles dans leur univers professionnel. Ce qui signifie en même temps qu'en France, il y a certes des plafonds de verre, mais on est capable quand même, avec un peu de coup de pouce, de faire avancer les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est que l'on voit de plus en plus, parce que malgré toutes les difficultés, on le voit, ce qui d'ailleurs n'arrange pas certains mouvements extrémistes, c'est qu'il y a de plus en plus, si vous voulez, de Français musulmans qui assument la responsabilité, qui assument la parole, et qui non seulement revendiquent des droits, mais qui revendiquent des devoirs également. Chose qui n'existait pas il y a 40 ans. Les plateaux de télé en sont remplis, les universités en sont remplies, de tant de personnes de qualité qui aujourd'hui parlent et qui n'avaient pas droit à la parole il y a 40 ans parce qu'elles n'existaient pas tout simplement. Eh bien, cette génération-là est éduquée, cette génération-là connaît ses droits et cette génération-là veut assumer ses responsabilités. Il faut les encourager.
À juste raison, comme des citoyens qui s'acquittent de leur devoir de citoyen pour être fondés, de jouir totalement de leurs droits aussi de citoyen. En vous écoutant, Ardavan Amir Aslami, j'ai pensé à ce ratio, les statistiques, on peut les ployer ou les plier dans le sens qu'on souhaite. Il y a 15 fois plus en nombre de jeunes gens, garçons et filles, qui ont rejoint les rangs de l'armée et de la défense nationale que ceux qui sont allés gagner par l'idéologie d'un combat sacré dans leur voyage au bout de l'inhumain, c'est-à-dire pour un millier de ce qu'on appelle les djihadistes, on a 15 000, voire dans certains cas, les aumôniers disent 30 000 membres qui viennent du même terreau, dans les mêmes conditions, dans les mêmes contextes, pour l'effort et le tribut du sang quand c'est nécessaire afin de défendre la nation.
Ils sont chez eux en France, ils sont français, au même titre que tous les autres Français, ils assument leur devoir envers la patrie. Et si vous voulez, on trouve toujours des personnes décalage par rapport à la raison, des fous furieux pour parler vulgairement, que ce soit au sein de la religion musulmane ou au sein d'autres religions. Pardonnez-moi, il suffit de jeter un regard sur ce qui se passe en Cisjordanie pour voir que il manque pas de fous du côté de la population juive qui fait subir des exactions majeures, ces colons, à la population locale en occupant la maison des uns des autres.
Et ce n'est pas pour autant qu'on dit qu'intrinsèquement l'enseignement de la Torah ou le judaïsme manque d'humanisme ou de quoi faire le bonheur.
Exactement,
de
exactement. Le comportement de certains ne peut entacher toute une religion dans son ensemble. Moi, j'ai pour habitude de dire une phrase que je ne sais pas à qui je l'ai empruntée, qu'on ne peut pas mettre sur le dos du Christ, c'est que Cortés a fait au Mexique. Et le comportement irrationnel de certains ne saurait entacher toute une communauté, toute une religion. Cela va de soi. Parce que l'image que j'ai de l'islam, si vous voulez, c'est l'image de la tolérance, c'est de l'acceptation de l'autre dans sa différence. N'oublions pas que c'est pas l'islam qui est derrière l'Holocauste. Pardonnez-moi, et que les mêmes communautés qui étaient aujourd'hui, qui étaient à l'époque en France, en Europe, pourchassées, poursuivies dans des pogroms ou dans des holocaustes, c'était pas les populations musulmanes qui les poursuivaient. Et ces populations-là, en terre d'islam, vivaient en paix, protégées.
Peut-être un point, il faut cesser de voir que le fait islamique ou la question islamique, pour épineuse qu'elle soit pour certains, et la question de l'immigration sont deux éléments tautologiques. L'un épuise l'autre, alors qu'en réalité, la France a une relation multiséculaire avec l'islam, et puis il y a des vagues successives migratoires, dont certaines sont composées de musulmans, d'autres pas. Donc traiter la question islamique comme traiter exclusivement et uniquement la question migratoire n'est pas le bon abord.
Vous avez raison. Ce d'autant que, si vous voulez, l'immigration, entre guillemets, musulmane, trouve un peu ses origines dans les comportements de l'Occident envers les pays dont sont issues ces personnes qui aspirent à l'immigration. Quand je regarde, par exemple, l'Irak, et quand je vois que ce pays a été décimé sous des prétextes fallacieux par les Américains et leurs alliés, et qu'on reproche par la suite la présence des Irakiens dans les pays scandinaves et ailleurs, ça m'interpelle. Quand on détruit la Syrie dans tous les sens, avec l'aide des États-Unis, avec l'aide des djihadistes, qui aujourd'hui, soutenus par les États-Unis, arrivent au pouvoir à la tête de la Syrie, et qu'on dit il y a des Syriens en Europe, je m'interroge. Pardonnez-moi, je ne pense pas qu'il y ait des réfugiés aujourd'hui émiratis en France, ou des émigrés émiratis en France, ou qataris. Pourquoi? Parce que leur pays n'est pas attaqué, ça se passe bien.
Et combien même il n'y en aurait pas, on serait ravis d'en avoir.
Oui, vu les moyens financiers de leurs dirigeants. Donc, associer la présence de l'islam dans l'immigration et l'immigration est une erreur dans l'absolu, mais factuellement, du fait des exactions que ces pays-là ont subies par les Occidentaux, n'est pas forcément une erreur.
Alors, je reviens à une belle phrase, en tout cas, qui m'avait frappé. On n'est pas dans l'explication sociologique, et je me rappelle d'un ancien Premier ministre qui a dit « Ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. » Pardonnez-moi, il n'y a pas plus inepte qu'une approche comme ça, parce que si on n'essaye pas de comprendre, on reste tétanisé à attendre la prochaine catastrophe. Au contraire, il faut comprendre, il faut analyser, et qui dit analyser ne dit pas excuser. Expliquer n'est pas justifié. Mais l'une des explications que vous donnez, c'est que cette revendication religieuse ou politico-religieuse est en réalité un cri de détresse transmué parce que il y a la relégation, le rejet, la non-insertion dans le tissu social et économique. Et donc, ce que vous faites d'ailleurs avec la grande famille, dont il m'a été donné une fois d'assister comme ça discrètement, je ne sais pas si l'ancien président François Hollande en est le parrain d'une manière pérenne ou que pour l'édition à laquelle j'ai pris part.
Vous avez raison. On change de parrain chaque année de manière à permettre aux étudiants de s'ouvrir sur le monde. On a eu le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel, un ancien président de la République, président d'un groupe du CAC 40. Ça change. Pour ouvrir justement l'horizon à toutes ces personnes. Et votre présence nous a honoré d'ailleurs.
Enfin, je vous en prie, merci infiniment à vous. à mon avis, il y a aussi un traitement, on l'a dit quelquefois ici, et puis l'article « les » est toujours problématique, donc il vaut mieux dire « certains des ». Et donc, il y a des plateformes médiatiques sur des réseaux asociaux pour certains qui en font une obsession maladive sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif. Et quand le vocable islam est prononcé, il est prononcé avec un corollaire d'épouvante, de terreur, d'obscurantisme, d'archaïsme. Et ça, ça ne contribue pas pour le reste de la société française, non seulement à apaiser les tensions, mais à laisser place à une meilleure compréhension entre les différentes composantes de la nation.
Vous avez parfaitement raison. Je ne sais même pas si je peux rajouter quelque chose, puisque votre question englobe sa propre réponse, et je partage intégralement ce que vous venez de dire.
Alors, passons maintenant, si vous voulez bien, à l'idée que l'insuffisante compréhension, ou ces difficultés que nous sommes en train de mettre en avant par rapport à l'islam, ne sont-elles pas dues aussi à l'absence d'une instance pas représentative des musulmans, parce que les musulmans, s'ils doivent être représentés, ce sera au Parlement et à la représentation nationale, mais d'une instance qui gère les questions relatives à l'exercice du culte.
Je suis totalement d'accord avec votre commentaire. Il y a un besoin d'instance de représentativité dans le sens que vous venez de présenter. Il faut en fait un CRIF musulman. Si vous voulez, les Arméniens, chaque année, organisent un événement auquel assiste un Premier ministre ou le Saint Président de la République, ou un Président de la République. Les Juifs au sein du CRIF font pareil. Mais les musulmans, rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les musulmans ne sont pas capables de créer leur propre organisation représentative? Eh bien, pour moi, ça, c'est un manque réel. D'ailleurs, je considère que globalement, la question de l'islam en France n'est pas correctement traitée, ni par la communauté elle-même, ni par les hommes politiques. C'est la communauté elle-même, si vous voulez, parce qu'il n'y a, on ne donne pas la parole à des personnes capables, autorisées comme vous, pour parler au nom de la communauté, et qu'on a, pardonnez-moi pour la comparaison
qui... Je vous en prie, je ne suis que médiateur dans cette affaire.
Votre modestie vous honore, mais vous êtes un très grand spécialiste de l'islam, et qu'en face, on entend des illuminés comme l'imam Chalgoumi, qui ne représente que lui-même, qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement en français, qui personnifie la communauté musulmane. On ne peut pas accepter ça. La communauté musulmane a des gens autorisés, a des gens parfaitement qualifiés pour parler au nom de cette communauté. Eh bien, on les entend pas. On les entend pas. Donc, la communauté elle-même est incapable de s'exprimer. Ensuite, les hommes politiques, soit par crainte d'être accusés d'islamophobie, se taisent, et n'osent pas prendre la parole, soit ont basculé dans l'extrémisme. Et vous le voyez bien, même le Rassemblement National aujourd'hui, connu pour les disques de chant nazi de Jean-Marie Le Pen, a basculé dans l'inverse, approuvant à 100% ce que dit le gouvernement de Netanyahou, poursuivi pour fait de génocide devant les instances internationales. Donc, il n'y a pas non plus des instances représentatives religieuses. Je ne sais pas si la gouvernance de la communauté musulmane en France est dirigée par des Français eux-mêmes. C'est trop souvent des pays étrangers qui ont une présence, de par la présence de leurs nationaux sur le territoire national, jouent un rôle trop direct, trop décisif dans la représentativité. Et pour moi, c'est une erreur. Je pense que il y a un islam en France, eh bien il faut qu'il y ait une institution représentative en France. Pas de France, en France. Et il appartient à la communauté musulmane de la créer, de la déterminer, et pas à des pays étrangers dont les ressortissants sont présents en nombre sur le territoire national.
Thank you.
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Et aujourd'hui, avec Maître Ardavan Amir Aslani, avocat au barreau de Paris, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, attaché aux armées françaises aussi, nous parlons d'une laïcité ou de la laïcité, de ce principe de laïcité pour le 21e siècle, appliqué tout particulièrement à la composante islamique de la nation. Et pour cette dernière partie, vous préconisez, vous dites à juste raison, Maître Ardavan Amir Aslani, que une approche apaisée et une compréhension de la laïcité comme un principe à la fois de liberté de conscience, de liberté religieuse, de pouvoir croire, de ne pas croire, et surtout aussi de changer de croyance, et de neutralité de l'État qui se tient à équidistance à l'égard de tous les cultes présents sur le sol de la République, ceci permettra en principe et avec le temps l'émergence d'une instance qui laisse place à une élite musulmane laïque et qui agira comme d'autres composantes de la nation, non pas pour fracturer ou juxtaposer comme ça des composantes, mais pour permettre dans une synergie, une symbiose, une osmose, une mosaïque humaine vivante, une vie dynamique au sein de la nation.
Bien sûr, vous savez, la définition que vous m'avez donnée de la laïcité en cette année anniversaire est fondamentale. Vous l'avez dit, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté même de changer de religion. Ce n'est pas le laïcisme, une nouvelle religion, c'est ce que c'est devenu, la volonté de combattre le fait religieux où qu'il se trouve. On l'a bien vu, si vous voulez, sous la Troisième République, avec les hussards de la République qui partaient vers la Bretagne notamment, ou en Vendée. On l'a vu au début des années 80 et qui continue encore aujourd'hui. L'État n'a pas un rôle au niveau du fait religieux. L'État doit juste en garantir la neutralité. L'État est neutre. Or, si vous remarquez, à travers les affaires du foulard, à travers les affaires de la burqa, on a l'impression qu'en permanence, tous nos problèmes en France sont réglés et que la seule question qui demeure non résolue, c'est d'aller combattre le foulard, le tchador ou je ne sais quel burqa. C'est ridicule. La République ne va pas tomber face à un tchador ou un burqa. Et je dirais, même si quelqu'un a envie de porter ça, la laïcité n'est pas le symbole du combat contre l'accoutrement. La laïcité, c'est permettre la liberté, même au sein de l'école publique. C'est juste la création d'un univers libre de tout enseignement religieux, pas irreligieux, a-religieux, pas à caractère religieux, donc pas un cadre, pas des cadres d'enseignants qui sont des religieux, et également un enseignement neutre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. On interdit l'accès à l'école publique à des personnes du fait de leur accoutrement. On essaie maintenant de le maquiller de telle ou telle chose. Alors, de tel ou tel argument sanitaire. Pour ma part, si vous voulez, étant un laïc convaincu, je suis contre tout cela. Mais, en même temps, je pense que la liberté individuelle doit s'exprimer. Si vous regardez l'Angleterre, sa version de traiter cette question de fait religieux, dans leur façon de voir les choses, ils n'identifient pas tel signe distinctif comme étant un danger pour le Royaume britannique. En France, on identifie la chose comme un danger, puisqu'on a transformé la laïcité en une religion d'État, en une sorte de panthéon.
Oui. Alors, d'aucuns diront que l'universalisme républicain, pour peu qu'il s'applique, fait que, au sein de l'école publique, par l'enseignement libre, qui doit être en principe, je parle de l'école, un sanctuaire où les futurs citoyens, concernant leur identité, sont en devenir, auquel cas, les accoutrements ou les appartenances confessionnelles ne doivent pas être, dans un premier temps, affichés. Mais bon...
Que ferait-on à ce moment-là avec des enfants dont les parents ne les laisseraient pas sortir si les enfants ne sont pas correctement vêtus d'après les règles de telle ou telle religion? On va les enfermer dans un ghetto.
Oui, alors, ce sont des...
Des débats sans fin.
Des débats de société sans fin, mais je pensais à une parole attribuée, dont il faudrait s'assurer de la paternité, à Aristide Briand qui disait, quand il y avait ce débat sur la soutane, « Ah, Notre loi, la loi de séparation, n'est pas non plus pour une police du vêtement. La soutane doit être possible et les Français, quels qu'ils soient, pourront la porter, y compris les prêtres. Donc, en ayant inversé, j'allais dire, l'argument. Pour poursuivre ensemble, cher Ardavan Amir Aslani, pour le temps qui nous reste, si nous arrivions à planir les difficultés dues à des considérations d'identité, à une meilleure compréhension, à laisser place à l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, à ce que de l'autre côté, la République puisse nourrir, instruire, protéger, aimer tous ses enfants, quels qu'ils soient, c'est le chemin indiqué pour la sortie de crise?
Oui, je le pense. Parce que la République, elle est une et indivisible. Vous êtes républicain, très attaché au principe de la République, je le suis également. Il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers la reconnaissance de la dignité de l'autre. Il faut arrêter de stigmatiser une partie importante de la population. Il faut reconnaître que cette communauté-là, cette communauté musulmane, elle est chez elle en France. Il faut la traiter comme étant une communauté à part entière de la France. Je veux dire, même le mot communauté, ça ne veut rien dire, puisqu'en France, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la française. Et je sais que la phrase est la vôtre, et je me le suis attribué 50 fois sans vous verser les droits d'auteur. Cela dit, oui, mais il y a des sensibilités. Et ces sensibilités, il faut les respecter. Moi, je suis pour le respect de la dignité de tout un chacun. Et pour moi, toute initiative passe forcément par là. Le respect de l'autre dans sa différence, qui ne me fait pas peur. Parce que la République et ses valeurs sont puissantes. On ne va pas trembler face à une religion différente. On ne va pas trembler face à quelques signes d'appartenance à une religion qui n'est pas la religion historique de ce pays. Parce que les valeurs de la République sont fortes, inébranlables.
Oui, et que nous appartenons tous à une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, où l'obéissance de la loi est pour tous, et nul ne peut se prévaloir de ses propres croyances pour s'affranchir de la loi commune.
Bien sûr, bien sûr.
Et comme non plus on ne peut pas ignorer la loi, nul n'est censé ignorer la loi, ni se prévaloir de sa propre turpitude, il y a lieu d'adhérer à la loi, et donc au droit positif. Il faut cesser avec cette fantasmagorie qu'il y a des jeunes gens qui privilégieraient ou qui préféreraient ce qu'on appelle la charia sans la définir,
oui,
même, alors qu'en réalité, il doit y avoir cette adhésion de respect de la loi.
Bien sûr. Et puis, si vous remarquez, plus on stigmatise les éléments de cette communauté,
de cette composante,
c'est encore mieux. Plus on les stigmatise, plus on produit l'effet inverse. Et puis vous le savez, les éléments les plus radicaux, ce ne sont pas les éléments les plus sachants de la composante, si bien nommée. Ce sont des personnes qui ne connaissent quasiment rien à l'islam, mais qui trouvent dans l'islam, dans la gloire de l'islam, un facteur identitaire. Et je crois que ça devient de plus en plus dangereux quand on érige une religion comme étant un déterminant de l'identité de quelqu'un.
Et faut aussi comprendre qu'il n'y a aucune raison de continuer à ethniciser par la confession. On considère que le musulman est en gros le subsaharien et le maghrébin. Et ça ne va pas de pair, il n'y a pas un isomorphisme entre le morphotype ou le génotype d'un maghrébin et la confession islamique. Or, dans l'esprit de beaucoup, être musulman, c'est être un individu allogène, alloglotte, adventiste, étranger, inassimilable et envahisseur.
Géographiquement localisé en fonction de la présence d'une population d'origine musulmane sur le territoire national. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un musulman d'Alger et un musulman de Peshawar, un musulman de Jakarta? Rien. ils n'arriveront même pas à communiquer ensemble, ni même à se mettre d'accord sur les mêmes règles qui gouvernent la religion musulmane. Donc il n'y a pas qu'un seul islam, et la confusion entre l'islam et les origines géographiques de la présence de certaines personnes sur le territoire national est encore la traduction d'une très mauvaise connaissance de ce qu'est cette religion.
Et donc la force de la République réside dans son aptitude, sa capacité à s'adresser, à parler à cœur ouvert, à toucher les cœurs, mais aussi à parler aux esprits. C'est encore une fois, alors d'aucuns parlent d'un pacte républicain qu'il faut savoir sceller, mais cette utopie qui doit être réelle, et vous le dites dans votre ouvrage, héritière de la Révolution française, c'est d'avoir une république pour tous.
Bien sûr. D'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui prêchent pour la tolérance, ceux qui prêchent pour l'acceptation de l'autre dans sa différence, se revendiquent de la République. De la République et de la Révolution française. Ceux qui sont contre l'islam, qui excitent les uns les autres, se revendiquent de la France, à laquelle ils peuvent même pas raisonnablement s'identifier. Donc on essaye même d'opposer la France à la République, comme il s'agit de deux choses différentes. La France étant l'histoire, étant le christianisme, et la République étant cette porte ouverte vers le multiculturalisme. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'institution en dehors de la République. Et la République est la seule institution capable de garantir le vivre ensemble, dans la différence et dans le respect de l'autre, et des valeurs républicaines et des lois de la République.
Vous avez évoqué tout à l'heure le laïcisme avec le suffixe « isme » qui étouffe la racine généralement, et donc le laïcisme belliqueux, anticlérical, qui s'érige comme la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que on a un parti qui siège, quand on voit l'hémicycle au niveau de la représentation nationale, plutôt à droite, voire l'extrême droite. Je dis ça parce que certains s'insurgent contre désormais l'appellation extrême droite, mais il suffit de voir physiquement où les membres de ce parti siègent, et de constater que, à un moment donné, ils s'insurgeaient contre cette laïcité, et là, curieusement, ils s'en prévalent, ils l'instrumentalisent, quand il s'agit de l'ériger comme un marteau, un glaive ou une épée contre une composante de la nation.
Oui, c'est exactement ça. J'adhère totalement à ce que vous dites.
Bien, vous restez optimiste parce que l'optimisme est de volonté alors que le pessimisme est d'humeur. Ce qu'on ne sait pas ou on le sait peu ou on ne le met pas en avant, c'est que il y a une sécularisation à l'œuvre qui traverse la société française et davantage sa composante islamique. C'est la meilleure réponse. Et ce ne sont pas tel ou tel sondage dont le commanditaire est peut-être avec des arrière-pensées
qui ou vont de financement étranger.
Et dont le financement est étranger, effectivement. Donc, assurément, si on reste dans cette optique-là, les choses finiront par s'aplanir et on n'ira pas vers la conflagration généralisée.
Non, il n'y aura pas de guerre civile. Et moi, je crois, si vous voulez, à la notion de la pensée positive. Parce que je crois que dès lors que l'on place notre espoir dans l'amélioration du quotidien des uns et des autres, cette amélioration interviendra. Par contre, si comme certains, on passe notre temps à inviter la guerre civile dans nos foyers, elle peut également arriver. Donc ce sont les ennemis de la République, les ennemis de la tolérance, qui militent pour cette cause-là. Moi, j'en fais pas partie.
Oui, parce que là aussi, la prise de parole publique doit être une prise de parole responsable, qui n'ajoute pas à la fracturation dont nous pâtissons une autre, mais plus de la compréhension et essayer de guérir, d'amener des solutions, comme vous le faites pour la grande famille. Parce que la réponse sociale est aussi nécessaire. Il y a d'autres réponses, la réponse même psychologique pour les failles identitaires, les échecs scolaires, les fêlures morales, l'absence du père ou de l'autorité comme repère. Tout cela, on doit y répondre.
Absolument.
Et pensez-vous que sous la voûte commune de la laïcité, encore une fois, et comme le ciel est plus clément au-dessus de notre tête au sein de la République, un travail de refondation de la pensée théologique peut et doit être mené dans le cadre de la République et en France, parce que, quoi que nous disions, il y a un climat aussi de liberté qui le permet, pour en finir avec les scories, une vision passéiste ou dépassée d'une épistémée médiévale éculée.
L'image de l'islam est restée l'image de l'islam du Moyen-Âge. La réalité, c'est que quand on regarde vraiment bien ces questions-là, on voit que certains islams, il y en a plusieurs, on l'a rappelé, méritent d'être, si j'ose dire, modernisés. Il y a même cette modernisation qui porte un nom arabe, ijtihad. Le ijtihad, qui était la volonté des jurisconsultes de l'histoire, de permettre toujours l'adaptation de la religion à l'évolution de la technologie, des sciences, de la modernité économique de la société. Ça a toujours existé. Cet ijtihad doit continuer. Aujourd'hui, ça continue pas avec la vitesse souhaitée, parce que les pays qui en ont les moyens n'ont pas convenance. Je parle des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, n'ont pas convenance à ce que ça change. Donc pourquoi est-ce que la France ne jouerait pas un rôle dans ce domaine-là? Pourquoi des musulmans de France, des spécialistes exceptionnels que nous avons, dont vous faites partie, ne joueraient pas ce rôle-là? Et je crois qu'il faut le faire. Parce que si nos anciens ne l'avaient pas fait, l'islam n'aurait pas été pareil aujourd'hui par rapport à il y a 14 siècles.
Bon, encore une fois, indépendamment de ma petite personne, je réagis sur le mot ijtihad parce qu'il faut toujours réexpliquer, et la pédagogie, c'est l'art de la répétition, comme disent certains. Ijtihad est de la même racine que djihad, qui renvoie à l'effort. Donc, traduire systématiquement le djihad comme une guerre sainte est un non-sens total. Non qu'il faille éluder la question du combat sacré ou d'une idéologie mortifère, mais nous devons à la vérité sémantique et étymologique que djihad n'est pas une guerre sainte, et quand on ajoute le T d'ijtihad, l'effort devient intellectuel, cérébral, moral.
Absolument.
Merci infiniment.
Merci à vous, cher ami, de m'avoir invité, de m'avoir donné cette opportunité.
Je vous en prie, nous avons été extrêmement attentifs à vos propos et votre appel pour cette laïcité apaisée pour le 21e siècle dont nous avons tant besoin, aussi bien en France que de par le monde. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Dofar Guiride et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.